Chapitre 4e. Arrivée de la Brûle-Gueule et de la Preneuse à Cavite-le-Vieux. Détail de mœurs. Une belle équipée. Mes premiers essais en peinture. Une panique espagnole. Désertion de Kernot. À l'atterrage, nous reçûmes un coup de vent si terrible que la Brûle-Gueule fut obligée de caréner. Cet accident remplit mon matelot de joie. « Vois-tu, mon vieux, me dit-il avec enthousiasme, lorsque les deux navires mouilleront dans le port de Cavite-le-Vieux, qui est situé de l'autre côté de la baie à Manille, si nous ne nous amusons pas ici pendant que l'on réparera le navire, c'est que nous sommes des rien du tout. Est-ce que l'on s'amuse à Manille, matelot ? À Manille, pas trop. C'est une ville de commerce. On y cause trop de piastres et de marchandises. Mais ici, à Cavite-le-Vieux, qui est la ville maritime proprement dite, on y jouit de tous les plaisirs imaginables. Mille noms de noms. Y ai-je tout de même passé déjà de bons moments ? Quelle est la population de Cavite ? Des gredins finis, mais drôles comme tout. Tu trouveras ici des malades de tous les pays du monde, et tu peux penser hardiment et sans crainte de te tromper, quand tu rencontreras un matelot étranger dans la rue, que cet homme a déjà été condamné quelque part à la potence. C'est ici le refuge de tous les aventuriers et de tous les pirates du globe. Des canailles affreuses, c'est vrai, mais qui savent joliment égayer une société et mener la vie bon train. Et la police du pays tolère tous ces gens sans aveu ? Comment ? Si elle les tolère, mais elle les adore. De quoi donc vivra-t-elle sans eux ? Et puis, vieux, faut pas se figurer que la police fasse ici sa bégueule comme en France. Ah bah oui ! Une fois la nuit venue et les lumières éteintes, les patrouilles de soldats et les sérénos ou gardiens nocturnes rivalisent entre eux de zèle à qui divalisera le mieux les passants. Tu verras comme nous rirons. Tu sais que le capitaine de la Souchet m'a permis de rester à terre. Avec moi, oui, connu. De la liberté, de l'or, les louis de ton cousin et de l'expérience, ça va être une vraie vie de paradis. Mais je meurs de faim. Allons déjeuner. Où me mènes-tu ? Calle Santa Teresa. Ce qui signifie rue Sainte Thérèse. Chez une brave femme que je connais joliment bien, et qui ne se fera pas tirer l'oreille pour nous recevoir à bras ouverts. À moins qu'elle ne soit morte, pourtant. Alors nous entrerons dans le premier bodégone, autrement dit bouchon, qui se trouvera sur notre chemin. D'abord ici, on entre partout. C'est le pays du bon Dieu. Pendant le trajet que me fit parcourir Kernot à travers la ville, j'observais avidement la curieuse population de Cavite-le-Vieux. J'apercevais de temps en temps de ces figures étranges, comme jamais je n'en avais vu de semblables nulle part, de ces costumes admirablement débraillés, qui ont fait la réputation de Callot et de Salvator Rosa. Enfin, partout mon regard se heurtait contre une énigme, une originalité ou un mystère. Un petit incident, moitié burlesque, moitié tragique, dont nous fûmes les témoins, nous arrêta dans notre course à travers la ville. De sacripants, entourés par une foule nombreuse de gens qui, certes, ne valaient pas mieux qu'eux, se toisant du regard et se menaçant de leurs couteaux, se tenaient, séparés seulement par 3 ou 4 pas de distance, en garde et prêts à en venir aux mains. « Eh bien, seigneuresse, dit l'un des deux combattants en se tournant vers les spectateurs, « les paris sont-ils ouverts ? Qu'on se dépêche, nous allons commencer. »« Attendez un instant, je vous prie, caballeros, » s'écria un moine franciscain qui sortit alors de la foule et s'avança vers les adversaires. « À vos ordres, padre, » dit le sacripant en abaissant son couteau. « Qu'y a-t-il pour votre service ?»« Je viens de t'entendre demander si les paris étaient ouverts, mon fils, » répondit le moine, « et je désirais t'examiner de plus près, toi et ton compagnon, pour savoir sur lequel de vous deux je dois aventurer mon argent avec une honnête chance de succès. Tu me sembles souple, agile et nerveux, oui, cela est incontestable, mais sais-tu jouer du couteau ?» « Mon père était le fameux Espada, qui a été pendu si glorieusement à Manille, il y a peine 10 ans, et dont la mort, je puis avancer ce fait sans me vanter, car il appartient à l'histoire, fut si vivement ressentie par tous les gens de cœur. Je crois, padre, avoir hérité de quelques-unes des qualités de l'auteur de mes jours, » ajouta le fils Espada en baissant modestement les yeux. « Alors, mon jeune ami, je risque 10 piastres en ta faveur. Qui tient mes 10 piastres ? S'écria le moine en élevant la voix et en s'adressant à la foule. « Moi, respectable fraile, » répondit un des spectateurs. Le franciscain, en entendant ces paroles, s'empressa de se rendre auprès de celui qui venait de les prononcer, afin d'arrêter définitivement les conditions de leur pari, de façon qu'une méprise n'eût pas lieu. Toutefois, avant de s'éloigner, il n'oublia pas de donner sa bénédiction au valeureux champion qui représentait pour lui une valeur de 10 piastres. « Eh bien, vieux, me demanda Kerno, qui, comprenant la langue espagnole, m'avait traduit le dialogue que je rapporte ici, au fur et à mesure qu'il se débitait, « que penses-tu de Cavite ? C'est-il donc farce et amusant que ce pays-ci ? Mais, Motus, attention, voici mes coquins qui vont commencer leur danse. » En effet, les deux combattants, tombés carrément en garde l'un devant l'autre, s'escrimaient avec une adresse vraiment merveilleuse. Enfin, après des passes et des volte-face nombreuses, fort savantes, et qui furent vivement applaudies par le public, Espada fils reçut un coup de couteau dans l'épaule. Le combat cessa aussitôt. « Misérable ! » s'écria le moine en apostrophant avec fureur le vaincu. « C'est ainsi que tu abuses de ma confiance, que tu me fais perdre 10 piastres. Éloigne-toi de ma vue, fanfaron sans courage et sans adresse. La mort de ton digne père Espada était un bienfait public. J'espère te voir, toi aussi, un de ces jours, danser au bout de la corde d'une potence. » Quant à l'adversaire de l'infortuné Espada, fier de son triomphe, il fit le tour de la galerie formée par les spectateurs en présentant son chapeau. Tous ceux qui avaient parié pour lui y mirent quelques réaux. Ce combat, dont la vue, que l'on me pardonne cet aveu en songeant quels affreux coquins étaient en présence, m'avait beaucoup diverti, terminé, je rappelai mon matelot que nous comptions déjeuner. Mais Kerno, l'air surpris et absorbé, regardait le moine franciscain avec une telle attention qu'il ne m'entendit même pas. Je fus obligé de le secouer rudement par le bras pour lui rappeler ma présence. « Que diable considères-tu donc avec tes yeux fixes et ouverts tout grands comme des sabords ? » lui demandai-je. « Ce moine, eh bien, qu'est-ce qu'il a de remarquable ? Il est fort gras, peu propre, semble assez hypocrite et fume un cigare qui paraît assez bon. Tout cela est-il donc tellement curieux qu'il nous faille rester plantés comme des piquets au beau milieu de la rue, tandis que nos estomacs crient la faim ? Allons chez ton hôtesse. » « Oui, tout de suite, vieux. Seulement, si tu savais quelle drôle de ressemblance présente ce moine avec... « Ah, parbleu, mille noms de noms. Je ne me trompe pas. Je reconnais cette grimace. C'est bien lui. Attends un peu. » Mon matelot, en parlant ainsi, s'élança vers le franciscain, qui, après avoir payé ses 10 piastres de Paris, en accompagnant chacune d'elles d'un gros soupir, se disposait à continuer son chemin et le saisit par la manche de sa robe. Je me hâtai de rejoindre mon matelot. Le quelque peu de portugais que j'avais appris pendant mon séjour à bord de la prise de l'Helsinger, uni au latin que je savais assez imparfaitement au reste, me permit, sinon de comprendre bien parfaitement le dialogue qui s'établit entre le frère Lacôte et le moine, du moins d'en saisir le sens. Kerno, que le moine au premier abord avait affecté de ne pas reconnaître, demandait à ce dernier par suite de quelle étrange idée il avait quitté la marine pour le couvent. Et celui-ci répondait qu'une vocation irrésistible, longtemps comprimée, mais toujours vivante dans son cœur, l'avait conduit à ce maître franciscain. « Vois-tu ce gredin ? » me dit Kerno en français et en me désignant le moine. « Il y a 7 heures près de 5 ans qu'il a voulu me plonger son couteau dans le cœur. Une histoire de sentiment que je te raconterai un de ces jours. Il se nommait alors Pérez, et servait comme matelot sur un brick, fin voilier qui faisait, disait-on, du commerce avec l'archipel. Quel commerce, ça se devine. Heureusement qu'il manqua son coup. Et toi, que lui fis-tu ?
Moi, généreux et breton, je me contentais de lui flanquer des gifles.
Ah, mais de fameuses gifles, par exemple. Il en garda le lit plus de 15 jours. Et voilà que je le retrouve moine à 7 heures. Hein ? Que penses-tu de Cavite ?
C'est-y amusant, Dieu du ciel ? Y a-t-on de l'agrément dans cette bonne ville ?
S'adressant alors au franciscain, Kerno continua. « Et dis-moi, seigneur du couteau, lui demanda-t-il, est-ce que tu vas toujours, depuis que tu es entré dans les ordres, chez Madame Encarnacion, notre hôtesse ? Tu sais, là où nous avons fait connaissance, et où tu as voulu voir si ma peau était, oui ou non, à l'épreuve d'une piqûre ?»«
Toujours, mon cher frère, répondit le moine en baissant modestement les yeux.
« Eh bien, je m'y rends de ce pas. Veux-tu m'y suivre ? Nous boirons un grog soigné. »
« C'est pas que je t'estime, au moins. Ah, ça, non. Mais ça me cause tout de même du plaisir de te revoir. Ça me rappelle un tas de drôleries amusantes de ce temps-là. Allons, pas de façon. Je sais que tu ne détestes pas le grog. Viens. »
Le franciscain, pressé avec tant de politesse, ne put refuser l'offre aimable de mon matelot, et nous nous remîmes en route tous les trois ensemble. Après 5 minutes de marche, mes deux compagnons s'arrêtèrent devant une espèce de magasin tenant le milieu entre une épicerie et un cabaret. C'était là que demeurait la Encarnación. Après avoir traversé la salle d'entrée, où plusieurs matelots et indigènes buvaient assis devant de petites tables, nous montâmes un escalier en pierre assez sombre et passablement dégradé. Puis, arrivé au premier étage, le moine Pérez, qui me sembla très au fait de la localité, s'engagea dans un long corridor et, s'arrêtant devant une porte, y frappa discrètement 2 coups. « Entrez !» répondit du dedans une voix assez forte, qui me parut pourtant appartenir à une femme. À cette invitation, Kernot, toujours expéditif et sûr de lui-même, lança un vigoureux coup de pied contre la porte, qui, vieille et vermoulue, s'en fut battre, en laissant échapper un nuage de poussière, le pan du mur auquel elle était attachée. Une vieille femme, assise par terre au milieu de la chambre, sur une natte de jonc, la bouche armée d'un colossal cigare, et tenant dans ses mains un chapelet énorme, apparut à nos regards. À notre brusque irruption, la femme au chapelet, la Señora Encarnación, poussa un cri de frayeur, laissa tomber son cigare et se mit à faire de nombreux signes de croix. « Voilà une réception plus chrétienne qu'amicale !» s'écria Kernot. « Ah ça, la mère, ai-je donc tellement vieilli depuis mon dernier séjour à Cavite que tu ne me reconnaisses plus ?»«
Ah, c'est toi, fils !» dit la Encarnación, qui, remise de sa frayeur, se leva avec précipitation et se jeta avec toute la fougue espagnole et, selon l'usage du pays, dans les bras de son matelot pour lui donner la brazo de rigueur. Le Breton, peu désireux d'une telle faveur, se recula vivement.
« Assez, assez, la mère, ça suffit, » dit-il. « Causons peu et causons bien.
Peux-tu, d'ici à une demi-heure, nous servir un déjeuner soigné? Tu me parleras ensuite de ta santé au dessert. »«
Vous voulez déjeuner, seigneurie? Hélas, je n'ai pas l'esprit assez libre pour m'occuper de pareilles affaires, » répondit la Encarnación en fondant tout à coup en larmes.
« Ah, ça c'est bête !» s'écria Kernot. « Ça va nous retarder notre repas d'une heure. Voyons, que diable, ne pleurez pas comme ça, puisque j'ai l'estomac creux.
Ah, si vous saviez, seigneurie,
tu nous raconteras cela à table.
On a enlevé aujourd'hui ma jeune fille, mon adorée Gloria.
Oh bah, ça a dû lui faire plaisir à cet enfant.
Il faut après tout qu'elle ait grandi tout de même, car la dernière fois que je la vis, elle m'arrivait à peine au coude.
Ah, on l'a enlevée ce matin.
Eh bien alors, serre-nous tout de suite à déjeuner, on te la rendra, c'est sûr.
Ah, seigneurie, et son honneur?
Hein, plaît-il?
Toujours des bêtises.
Adieu, je m'en vais ailleurs. Bien de l'agrément, et que le diable emporte ta cassine. Tu peux compter que je ne mangerai plus mes parts de prise ici.
Cette menace calma comme par enchantement la douleur de la pauvre mère, qui, essuyant aussitôt ses larmes et rallumant son cigare, nous demanda ce que nous désirions.
« Tout ce qu'il y a de mieux et beaucoup, » répondit Kernot.
Une heure plus tard, le moine Pérez, mon matelot et moi, attablés tous les trois, nous causions aventure de mer lorsque notre hôtesse va nous retrouver. « À présent, mère Encarnación, » lui dit le frère Lacôte en se versant, en guise de grog, une demi-bouteille d'eau-de-vie dans un bol à café, « dégoise-nous les malheurs, ça nous distraira. »«
Hélas, Seigneur, le récit en sera bientôt fait. » Il y a, de l'autre côté de la baie, à Manille, un très riche négociant que la beauté de Gloria avait séduit. Car vous saurez que ma chère fille est bien certes la plus jolie fille de Cavite, et qu'il devait venir la chercher ces jours-ci. C'était convenu entre nous depuis longtemps.
« Qu'est-ce qui était convenu, la vieille ?» interrompit Kernot.
« Ah, bête que je suis, de t'adresser une question aussi saugrenue !» continua mon matelot en haussant les épaules.
« C'était convenu. Après ?»
Ce très riche négociant est bien l'homme le plus généreux qu'il soit possible de trouver. Il devait faire repeindre à neuf la façade de ma maison, faire restaurer mon escalier, me donner 2 barriques d'eau-de-vie de catalan et m'ouvrir sans intérêt un crédit de 1000 piastres sur sa maison. Jugez comme tout cela eût rendu ma jolie Gloria heureuse. Vous m'observerez qu'il m'eût fallu me séparer d'elle. Hélas, cela m'eût été bien douloureux et pénible, mais après tout, N'est-ce pas un devoir pour de bons parents de savoir se sacrifier au bonheur de leurs enfants? J'étais donc résolu, lorsque ce matin j'ai vu des officiers entraînant Gloria de force, la contraindre à monter dans une voiture qui les attendait et disparaître bientôt à mes yeux. « Et malgré mes cris, » dit le moine Pérez en achevant le récit de notre hôtesse. « Cette fois-ci est-elle la première que l'on ait enlevé ta fille ?» demanda gravement Kerno en s'adressant à la signora Encarnacion.
« Certainement, seigneurie. »«
Eh bien, la seconde, cela ne te produira plus d'effet, » reprit le matelot en guise de consolation. Après notre déjeuner, qui se prolongea assez avant dans la matinée, nous sortîmes, Kerno et moi, pour courir la ville.
« Tiens, » me dit-il au milieu de notre promenade, « si nous rabattions un peu au couvent des franciscains, pour aller chercher Pérez qui nous a quittés en sournois, ça nous amuserait peut-être. Je n'ai jamais vu de couvent d'abord, moi. Et toi ?»«
Moi non plus, si ce n'est toutefois celui des Cordeliers. Et encore était-il occupé par un club où pérorait Marat. Allons. »
Le couvent des franciscains établi à Cavite est réellement magnifique. Des constructions superbes, des jardins immenses, une chapelle luxueusement ornée, où l'on voit briller de toutes parts diamants, pierres fines et joyaux d'or, sont la propriété de ces bienheureux pères. Nous pénétrons dans une vaste cour carrée entourée d'arceaux, et dont les murs, recouverts de tableaux assez mauvais, servaient d'appui à de nombreux bancs de pierre. Sur ces bancs, plusieurs franciscains, assis à côté de jeunes femmes, causaient et fumaient avec ce laisser-aller espagnol qui toujours, dans les premiers temps, surprend le voyageur. N'ayant trouvé personne à qui nous adresser, pas même un frère portier, nous allions nous-mêmes à la recherche du franciscain Pérez, quand des cris aigus de « Au secours ! Au secours !» arrivèrent jusqu'à nous. Puis, presque au même instant, une jeune fille éplorée se jeta dans les bras de Kerno. « Sauvez-moi, Seigneur !» lui dit-elle en proie à une agitation extrême. « Emmenez-moi d'ici !»«
Caramba ! Je ne demande pas mieux, surtout si c'est pour partager ma cabine !» lui répondit le frère Lacôte après l'avoir considéré un moment. Elle était au reste charmante.
Mon matelot, après cette réponse polie, offrait galamment son bras à la délicieuse créature quand plusieurs franciscains, attirés par les cris qu'elle avait poussés, sortirent précipitamment de leurs cellules et arrivèrent près de nous. À leur vue, l'effroi de la jeune fille reparut tout entier, et elle se cramponna au bras puissant du protecteur que le hasard lui envoyait.
« Ne craignez rien, mon enfant, » lui dit Kerno. « Ces gens-là sont des paresseux qui ne savent pas faire le coup de poing. S'ils ont l'air de bouger, je les bouscule tous. »
Et à cette perspective, qui lui souriait probablement beaucoup, mon matelot, relevant joyeusement les bouts de manchette de sa jaquette, regarda la troupe des franciscains d'un air moitié provocateur, moitié plaisant. Un vieux franciscain sortant du groupe des frères s'avança vers lui.
« Misérable impie, » dit-il au breton, « va porter ailleurs tes infamies et tes scandales. Éloigne-toi au plus vite de ces lieux.
« D'abord, farceur, je t'apprendrai que je ne suis pas le moins du monde impie. Ensuite, je te ferai remarquer que tu n'exerces pas proprement du tout les lois de l'hospitalité envers ceux qui veulent bien venir visiter ta baraque. Après tout, je ne m'en fiche pas mal. Quant à m'éloigner, je ne demande pas mieux, » ajouta Kerno en regardant tendrement sa jolie et inconnue protégée. « Sur ce, bonsoir la compagnie, mes compliments à vos dames, et que le diable vous torde à tous le cou. »
Mon matelot, après cette belle péroraison, allait s'éloigner lorsque le vieux franciscain lui barra le passage.
« Crois-tu que nous laisserons violenter cette jeune fille, misérable ?» lui dit-il.
« Ah, des mots, bon.
« Ça va chauffer, Louis, » murmura Kerno en se tournant vers moi.
« Surtout prends garde au couteau, garçon. Ces chafouins en ont jusque dans les plis de leur robe. »
« Eh bien, » reprit le franciscain, « m'as-tu entendu ?»«
Entendu et compris, parfaitement.
Alors je te le répète, laisse-la, cette jeune fille, et va-t'en. »
« Oui, oui, qu'il laisse cette jeune fille, l'hérétique, l'impie, le damné !»
hurlèrent en chœur les autres franciscains. Kerno, ravi d'entendre ces cris qui lui donnaient l'espoir qu'une lutte allait s'engager, se mit à considérer de nouveau les moines en ricanant à leur nez et à leur barbe. Puis, tout à coup, poussant un bruyant éclat de rire,
« Ah, pardieu, voilà qui est par trop drôle. Ce coquin de Pérez qui crie plus fort que les autres. »
Et le frère Lacôte, joignant aussitôt l'action à la parole, se jeta d'un bond au milieu des moines épouvantés,
happa l'infortuné ex-matelot par le collet de sa robe et me le rapporta en triomphe. « Tiens, vieux, me dit-il en le déposant à mes pieds, il sent encore le grog que je lui ai payé, l'ingrat. » À l'action du frère Lacote, plusieurs franciscains se précipitèrent vers la rue et se mirent à appeler les passants au secours. En moins d'une minute, la cour du couvent se trouva inondée d'une populace prête à se livrer à tous les excès qu'on lui désignerait. « Vieux, me dit rapidement Kernot, va-t'en vite. Es-tu fou ?
Mille noms de noms, ne m'interromps pas ou nous sommes fichus.
Il ne s'agit pas de te faire larder en ma compagnie, il faut que tu me sauves. Cours prévenir tous les amis qui se promènent sur le port du danger dans lequel je me trouve et reviens avec eux me prêter main forte. Quant à moi, ne crains rien, je connais le pays. J'ai pris mes précautions en conséquence et je suis paré pour tenir tous ces braillards en respect jusqu'à ton retour. Après tout, on ne sait pas ce qui peut t'arriver. Donne-moi toujours une poignée de main.
Bon. À présent, plus un mot, et déguerpis au plus vite.
Nom de nom, j'espère tout de même qu'on a drôlement de l'agrément, hein, Cavite. J'étais indécis si je devais, oui ou non, me conformer au désir de mon matelot. Mais en le voyant retirer une paire de pistolets de sa poche et se mettre à l'abri dans un angle, afin de ne pas être surpris par derrière, je compris qu'en effet, il pouvait attendre qu'un renfort lui arrivât, et mes irrésolutions cessèrent. Je m'éloignai donc en toute hâte, lorsque la plèbe qui envahissait la cour voulut s'opposer à mon passage. À ma vue, 20 couteaux avaient lui au soleil. Songeant à la position critique de mon matelot, j'allais prendre mon élan et essayer de traverser la haie de sacripant qui me barrait la porte de sortie, lorsqu'une heureuse inspiration me sauva.
« Au secours, mes amis » m'écriai-je d'un air effrayé. « Le feu est au couvent, je vais chercher les pompes !»
À cette nouvelle, que personne ne put mettre en doute, car tout le monde ignorait ce qui se passait, ce fut une confusion et un pêle-mêle général et complet. J'en profitai pour m'éloigner au plus vite. Je courais comme un fou dans la rue, portant partout mes regards effarés et anxieux pour voir si je n'apercevais pas quelques camarades, lorsque je me trouvais face à face avec un enseigne de la brûle-gueule que je manquais de renverser en le heurtant.
« Ah, monsieur Olivier » m'écriai-je en le reconnaissant,
et sans songer à m'excuser de ma brutalité. Tant j'étais ému par la pensée du danger auquel était exposé mon matelot.
Kernot est dans le couvent des franciscains, où les moines le retiennent de force et veulent le faire assassiner par la populace. Sauvez-le.
L'enseigne Olivier, jeune officier de tête et de cœur, comprit à mon émotion que je disais vrai, que je n'exagérais pas. Aussi, sans perdre à m'interroger un temps précieux, allez vite prévenir le maître d'équipage Fieret, que je viens d'apercevoir en passant dans ce café-ci, me dit-il, en me désignant du doigt, une espèce de vinothérie avoisine. Puis, plus loin, au bout de la rue, toujours de ce même côté, vous trouverez une vingtaine de nos hommes attablés dans un cabaret. Moi, je me rends au couvent des franciscains. 5 minutes plus tard, j'étais de retour avec les 20 camarades, qui, en apprenant la position critique de Kernot, s'étaient armés à la hâte de pieds de table et de chaises, lourds et massifs, de brocs d'étain, de couteaux, enfin de tout ce qui leur était tombé sous la main. Notre troupe, lancée au pas de course, arriva devant la porte du couvent avec l'impétuosité d'une avalanche en culbutant tout le monde sur son passage. Seulement, parvenue devant la demeure des franciscains, elle fut arrêtée par une foule immense et suivie qui encombrait la rue. Des cris furieux saluèrent notre apparition. Chaque homme de la populace s'empressa de dégainer son couteau. Les gamins ramassaient des pierres. Le combat ne tenait plus qu'à un hasard, un geste, un mot, un mouvement. Il s'engageait sur l'heure, lorsque tout à coup, nous vîmes la foule s'écarter en poussant des hurlements de joie devant un détachement de dragons qui lui arrivait en aide. L'officier qui commandait ce détachement, s'avançant à notre rencontre d'un air impertinent et martial, nous somma avec assez d'énergie et beaucoup de grossièreté de nous retirer à l'instant même, nous avertissant que, sur notre refus d'obtempérer à cet ordre, il nous ferait fusiller tous.
Ah, diable! « Est-ce que les carabines de vos hommes sont chargées, capitaine ?» lui demanda notre maître d'équipage Fieret d'une voix dont l'émotion nous étonna et souleva nos murmures.
« Certainement, » répondit l'officier.
« Fameux alors, mes amis, » reprit vivement Fieret en se retournant vers nous. « Emparons-nous de ces armes, elles nous seront de la plus grande utilité. »
Notre maître d'équipage n'avait pas encore achevé ses paroles, que nous nous étions déjà précipités sur les dragons, qui, ne s'attendant pas à cette brusque attaque, furent désarmés en un moment. M. Fieret,
connaissant trop la hiérarchie militaire pour ignorer ce qu'il devait à son grade, s'était emparé de l'épée de l'officier.
« À présent, en avant, enfant » s'écria-t-il.
Un simulacre de décharge que nous fîmes et quelques vigoureux coups de crosse que nous distribuâmes avec autant de générosité que d'à-propos nous frayèrent promptement un passage jusque dans la cour du couvent. Un spectacle flatteur pour l'amour-propre de notre équipage nous y attendait. Guernot, la figure ensanglantée, il est vrai, mais droit, ferme, le regard assuré et moqueur, tenait froidement tête à la plèbe furieuse qui hurlait devant lui. À ses pieds gisait le corps d'un moine que je reconnus de suite pour Pérez. Le frère Lacote, retranché toujours dans l'angle où je l'avais laissé, avait placé devant lui sa jeune protégée et présentait à la foule ses deux pistolets armés. De temps en temps même, il adressait à la charmante enfant un compliment accompagné d'une œillade. Alors des cris et des hurlements sauvages retentissaient jusqu'au ciel et comblaient le cœur du Breton de joie.
« Eh bien, chers amis, disait-il à la foule, est-ce que vous supporterez longtemps encore les impertinences d'un étranger hérétique comme moi? Allons, un peu de courage! Que deux d'entre vous se dévouent à la cause commune et essuient le feu de mes pistolets. Allons, qui se sacrifie? J'attends !»
À quelques pas de mon impudent matelot, M. Olivier, le brave enseigne, entouré également par une plèbe exaspérée que contenait seul son maintien digne, hardi et plein d'autorité, s'entretenait vivement avec un vieux franciscain, le supérieur du couvent. Je passerai sous silence, pour ne pas fatiguer le lecteur, les négociations qui suivirent notre arrivée jusqu'à ce que la paix fût conclue. Un ordre plein d'à-propos et exécuté vivement, que nous donna l'enseigne Olivier, celui de fermer la porte massive du couvent qui donnait sur la rue, ne contribua pas peu, en isolant les franciscains de la foule, à amener cet heureux résultat. Seulement, il fallait une victime à la colère de la plèbe et à l'amour-propre si vivement blessé des moines, et cette victime fut, hélas, mon pauvre matelot. Il fut convenu que Guernot s'agenouillerait devant le supérieur et recevrait sa bénédiction. Le frère Lacote s'exécuta de l'air le plus maussade qu'il soit possible d'imaginer.
« Ah, mille noms de noms !» nous dit-il en retournant à bord.
Car M. Olivier, dans la crainte justement fondée de voir cette affaire assez mal assoupie s'engager de nouveau, nous avait ordonné de nous rembarquer de suite.
« Ah, mille noms de noms ! Aussi vrai que je suis un Breton qui croit au bon Dieu, qui aime son curé, et qui se passe de temps en temps la fantaisie de faire brûler quelques cierges sur la chapelle de la Vierge, que le diable m'emporte, si ce n'est pas seulement pour vous éviter un échiniment général, que je me suis mis à genoux devant ce vieil oiseau déplumé. Je vous devais bien cette corvée, les amis, j'en conviens.
Pas moins, je l'aurai longtemps sur le cœur.
Dis donc, matelot, lui demandai-je, est-ce que tu as tué le Pérez ?
Du tout, vieux, c'est lui, au contraire, qui presque immédiatement après ton départ m'a lancé sournoisement son couteau à la figure et m'a coupé l'oreille.
Comment se fait-il alors que je l'ai vu couché ensanglanté à tes pieds ?
Dame, je l'ignore. Et il faut croire cependant que je lui ai redonné sans y faire attention un coup de poing quelque part.
Eh bien, trouves-tu que je t'avais blagué en te parlant des agréments de Cavite, vieux ?
Nous sommes-nous déjà amusés ? À peine débarqué, de suite des plaisirs. Mais tout ça, c'est rien du tout, de la Saint-Jean. Tu verras par la suite. Tu verras que de bon temps nous aurons.
Le reste de la journée, mon matelot m'adressa à peine la parole. Pensif et réfléchi, il me parut absorbé par quelque haute combinaison. Je me figurais qu'il ruminait le moyen d'assiéger Cavite, et je respectais son silence. La nuit venue, je me trouvais de quart avec lui, lorsque, s'approchant de moi,
« Je suis désorienté, vieux, me dit-il d'un air contraint et embarrassé.
Qu'as-tu donc, matelot ?
Tu vas me reprocher d'être un pas grand-chose, surtout pour un frère Lacote. Que veux-tu que j'y fasse ? C'est pas ma faute. Puisque ça y est, je ne puis pas empêcher que ça y soit, pas vrai ? Cette petite de tantôt m'a complètement mis le grappin dessus. Faudra que je la retrouve. À présent, plus un mot là-dessus. Louis, ça me chiffonnerait. »
Le lendemain, Guernot, qui avait été à terre, ne revint pas à bord. Dans la soirée, on m'apporta une lettre qu'il me faisait écrire, et dans laquelle il m'apprenait que la jeune fille de la veille n'était autre que Gloria, l'enfant de la Signora Encarnacion, que Pérez était le coupable, et que lui, Guernot, se sentait si épris qu'il avait résolu de filer son câble ou de déserter sans me revoir, de peur de se laisser attendrir. Il terminait sa lettre,
qui me peina beaucoup, en exprimant le désir et l'espérance que nous naviguerions encore ensemble. Pendant plus de 6 semaines que nous restâmes à Cavite, il fut impossible à notre capitaine M. Bruno de la Souchet d'obtenir le moindre renseignement sur Kernot. Nous étions alors au mois d'août, époque à laquelle le grand convoi anglais escorté par 2 vaisseaux devait partir de Chine pour se rendre en Europe. Le capitaine Lhermitte proposa à l'amiral espagnol, qui se trouvait alors avec sa division dans la rade de Mani, d'aller l'attendre au passage pour le capturer. Après des lenteurs infinies et des pourparlers inexplicables de la part de l'amiral espagnol, il fut convenu que l'expédition aurait lieu. Cette nouvelle, qui ne tarda pas à se répandre, causa aux équipages une joie qui tenait du délire et éveilla un enthousiasme inexprimable. En effet, il y avait bien de quoi, car l'État ne payant pas à cette époque avec une parfaite régularité, ou, pour être plus véridique, ne payant jamais la somme due aux équipages, nous nous trouvions dans une grande pénurie d'argent. Pénurie pénible, certes, mais surtout humiliante, en ce qu'elle nous contraignait sans cesse à baisser pavillon et à nous éclipser devant la prodigalité et la richesse des corsaires. Aussi, je le répète, à l'idée de s'emparer du riche convoi anglais allant de Chine en Europe, nos hommes ne se possédaient pas de joie. Enfin, après de nouvelles lenteurs que l'impatience et l'activité de notre intrépide chef, le capitaine Lhermitte, qui ne rêvait que combat et gloire, ne purent nous éviter, la division espagnole-française prit enfin la mer. Cette division se composait du côté des Espagnols de 2 vaisseaux de 74 canons chacun, l'Europa et le Montañes, de 2 frégates, le Famaët et la Cabeza, d'une autre, de la Preneuse et de la Brûle-Gueule. La désertion de Kernot en m'isolant m'avait fait, je ne dirais pas reprendre mes crayons, mais au moins le dessin. Je passais presque toutes mes journées, en dehors des heures que je consacrais à l'étude de ma théorie, à charbonner sur tous les endroits de la corvette où le noir pouvait marquer, quelquefois, des souvenirs des environs de Cavite ou de l'île de France, le plus souvent des navires. La Brûle-Gueule, naturellement, était l'objet de ma prédilection. Je la représentais sous voile et sous toutes ses allures. La place venant enfin à me manquer, je me rejetais sur les cages à poules. Toutefois, l'espace qu'elle m'offrait n'étant pas assez vaste pour permettre à mon charbon d'étaler ses lignes épaisses à son aise, j'eus recours à la pointe de mon couteau. Cela dura pendant 2 semaines. Ce temps écoulé, je me trouvais dans le plus grand embarras, et ne sachant plus comment continuer, lorsque le maître voilier vint à mon secours. Après avoir examiné mes ébauches avec le plus grand soin, et m'avoir présenté ses observations et ses critiques, il consentit à me donner un morceau de toile forte, pour que je puisse continuer mes compositions. Seulement, il m'avertit solennellement que si je gâtais cette toile par un dessin mal réussi, je n'eusse plus à compter sur lui. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si j'étais assez heureux pour réussir, il s'engageait à me fournir de nouveaux matériaux. Non, jamais jeune peintre mis en loge pour concourir au Grand Prix de Rome n'a dû éprouver un sentiment de crainte et d'anxiété semblable à celui que je ressentis alors. L'idée que si ma toile n'était pas jugée convenable, il me faudrait renoncer au dessin, m'épouvantait et m'excitait tout à la fois. Je me mis à la besogne avec enthousiasme. 8 jours plus tard, j'avais achevé ma composition. L'heure solennelle du jugement allait sonner pour moi. Jamais je n'étais plus ému de ma vie, je le crois, que quand, ayant livré mon dessin au maître voilier, je vis ce dernier réunir les matelots sur le gaillard d'avant pour les consulter. Je suivais, avec un douloureux battement de cœur qui m'étouffait, ma toile passant de main en main, et j'essayais de lire dans les traits de ceux qui l'examinaient l'impression qu'elle produisait sur eux. Un froncement de sourcils, une chique mâchée trop vivement, un geste d'épaule, me faisaient passer des frissons de peur dans le corps, tandis qu'un sourire ou un hochement de tête approbateur me transportait de joie. Enfin, le maître voilier, ayant réuni toutes les opinions, s'avança vers moi d'un air solennel et imposant. Je sentais mes genoux fléchir. Cependant, je parvins à conserver une contenance convenable. « Matelot, me dit-il, ton dessin pourrait être mieux. Mais là, franchement parlant, on en a vu de plus mal. Je veux te faire le plaisir de le garder pour moi. Je le donnerai en revenant en France à ma femme,
pour qu'elle le suspende à côté d'une Geneviève de Brabant joliment bien coloriée qu'elle possède déjà. Quant à toi, tu gagnes un autre morceau de toile, le voici. » Cette décision me causa un de ces vifs plaisirs, comme on peut seulement en éprouver quand on est jeune et ardent ainsi que je l'étais alors. Depuis cette époque, chaque fois que j'avais terminé un dessin, je le portais immédiatement au maître voilier qui, presque toujours, l'acceptait. Je dis « presque toujours », car je dois cependant avouer qu'il m'en fit effacer plusieurs. Si ma mémoire ne me trompe pas, je crois que ceux-ci étaient justement les moins mauvais. Une remarque aussi triste que vraie est celle que les hommes pardonnent rarement une supériorité à leurs semblables. Si j'eusse été un officier, mes infimes essais n'eussent certes éveillé la jalousie de personne, mais j'étais un simple matelot, et mes égaux, par la position et le rang, prirent bientôt ombrage de mes petits succès. Aussi m'était-il souvent une certaine perfidie à m'interrompre dans mes travaux pour m'envoyer accomplir certaines corvées dont ils auraient fort bien pu me dispenser. Une petite mésaventure m'arriva à cette époque par suite de ma rage pour le dessin. Ayant eu plusieurs fois entre mes mains, en ma qualité de timonier, le journal de bord, je n'avais pu résister à la tentation, par trop forte, d'une feuille de papier blanc et d'une plume à peu près taillée. Et je m'étais permis de griffonner en marge des observations que consignait chaque officier à la fin de son quart, des navires de toute forme et de toute grandeur. Un matin, le lieutenant en pied, ou second de la corvette, M. Frélot, officier fort sévère, et qui en général se montrait peu bienveillant, aperçut, en jetant un coup d'œil sur le journal de bord que je venais d'apporter au lieutenant Shield, dont le quart de 8 heures du matin finissait, une de mes productions anti-réglementaires. M. Frélot me lança un de ces regards que je ne connaissais que trop bien, et qui chez lui étaient presque toujours les avant-coureurs certains d'une punition. Je suis au reste très persuadé que j'avais été dénoncé. Qui a osé se permettre de salir ainsi ce journal ? Me demanda-t-il d'une voix prête à s'élever. Interdit, je cherchais une réponse, lorsque, pour comble de malheur, le capitaine se montra sur le pont et se dirigea vers l'endroit de la dunette où nous nous trouvions. Hélas, il venait justement demander le journal de bord. Je laisse à deviner l'embarras que j'éprouvais lorsque le lieutenant en pied montra d'un air de triomphe à M. Bruno de la Souchet le dessin accusateur. Le capitaine l'examina avec beaucoup d'attention, puis tout à coup et d'un air sévère. « Quel est l'auteur de ce chef-d'œuvre » demanda-t-il au lieutenant. « Je l'ignore, capitaine, » répondit celui-ci en souriant d'un petit air malicieux et satisfait qui me fit peur. J'adressai à l'instant cette même question au timonier Garneret, qui ne m'a pas encore répondu. « Eh bien, Garneret, entendez-vous ? » me dit M. Bruno de la Souchet. « M. Frélot vous parle. » Après avoir, avec cette lucidité et cette promptitude de perception que donne le stimulant du danger à notre esprit, cherché, pendant une seconde, un moyen soit de me tirer de ce mauvais pas, soit d'atténuer les conséquences fâcheuses que devait entraîner pour moi ma faute, je ne trouvais rien de mieux à répondre à M. Bruno de la Souchet que cette phrase-ci. « C'est moi, capitaine, qui ai commis ce dessein. » « Ah, c'est vous, monsieur. Fort bien. Allez me chercher le capitaine d'armes et revenez avec lui ici. » Cette mission n'avait rien d'agréable, j'en conviens, mais s'il n'y avait pas à hésiter, il me fallut obéir. Les gens de l'équipage, intéressés par cette scène, qui devait naturellement se terminer pour moi par une punition exemplaire, c'est-à-dire par un spectacle pour eux, me regardaient, la plupart avec curiosité, quelques-uns même, les jaloux de mes gribouillages, avec une maligne et méchante joie. Que l'on juge de ma stupéfaction lorsque j'aperçus, en retournant accompagné du capitaine d'armes, M. Bruno de la Souchet, accroupi devant une cage à poules et occupé à examiner mes dessins, tracés non plus cette fois la plume, mais hélas, circonstance aggravante, avec la pointe de mon couteau. Je sentais en ce moment seulement toute l'étendue de mon crime, et je me vis destiné au moins au supplice de la calmouiller. Les quelques secondes que je restais planté droit et immobile devant le capitaine, toujours occupé à examiner mes malheureux essais de gravure sur bois, me parurent bien longues. Quant au lieutenant en pied, M. Frélot, que je regardais de temps en temps à la dérobée, un sourire doucereux qui épanouissait ses lèvres augmentait encore ma frayeur. Enfin, M. Bruno de la Souchet se releva, me lança un regard sévère,
puis s'adressant au capitaine d'armes. « Vous ferez retrancher la ration de vin de cet homme jusqu'à nouvel ordre, » dit-il en me désignant. Ces paroles me causèrent une joie intérieure indicible et m'enlevèrent de dessus le cœur un poids énorme qui m'étouffait. Le capitaine d'armes, dont le grade correspond à celui de sous-officier, s'inclina et s'en fut immédiatement porter cet ordre à la cambuse. Monsieur Frélo, je dois cet aveu à l'impartialité, paraissait fort désagréablement surpris, presque affecté. Lorsqu'à midi l'on servit le dîner à l'équipage, j'allais m'asseoir tranquillement par terre à ma place habituelle, quand un novice m'avertit que le capitaine me demandait. Je trouvai M. de Bruno de la Souchet se promenant tranquillement sur la dunette. « Monsieur Garneret, me dit-il avec cet air affable et ses manières de grand seigneur, que personne au monde ne possédait mieux que lui, si vos travaux d'art vous permettent de disposer d'une heure de votre temps, je serais heureux de vous avoir aujourd'hui à dîner avec moi. » Un profond salut fut ma seule réponse. « Eh bien ?» me demandèrent mes camarades en me voyant de retour parmi eux dédaigner le maigre plat de haricots durs et de lard salé qui composait notre ordinaire. « Est-ce que les paroles du capitaine t'ont coupé l'appétit ?»« Justement, car le capitaine m'a invité à dîner aujourd'hui avec lui, et je me ménage pour pouvoir faire honneur tantôt à sa cuisine. » Cette nouvelle produisait une émotion profonde sur mes auditeurs. « Crématin !» me dit un vieux loup de mer placé près de moi. « T'as de la chance. Mais je ne voudrais pas, pour 10 parts de prise, me trouver dans ta peau. Pourquoi cela ?»« Tiens, cette bêtise. Parce que s'il me fallait m'asseoir à côté du capitaine, déplier ma serviette et me l'attacher au cou, cracher en mettant ma main de côté près de ma bouche, retourner ma chique en douceur, enfin, avoir ce qu'on appelle de belles manières, j'aurais tellement peur d'oublier quelque chose de la civilité que je serais capable d'étouffer net. T'as pas peur, toi ? Mais non, pas le moins du monde. Crématin, il faut que t'aies tout de même un fier toupet. » L'heure du dîner arrivée, je m'arrangeai du mieux que je pus et je fus chez le capitaine, que je trouvais, l'usage s'opposant à ce qu'il fît dîner un officier avec un simple matelot, seul à table. Il me traita, non pas comme si j'eusse été un homme de son bord, mais comme le cousin de mon collègue Boileau-le-Loup, c'est-à-dire qu'il fut pour moi d'une amabilité et d'une bonté parfaite. Il me reprocha bien un peu, avec un tact exquis, les dégradations que j'avais commises, mais il tempéra ses reproches par l'offre qu'il me fit et que j'acceptai avec des larmes de reconnaissance dans les yeux de me fournir tout le papier et les crayons à dessin dont je pourrais avoir besoin. « Qui sait ?» me dit-il en terminant. « Si les heureuses et précoces dispositions que vous montrez aujourd'hui pour la peinture ne vous seront pas un jour d'une grande utilité. » Cette prophétie s'est en effet réalisée de la manière la plus complète. Le lendemain, et je consigne ce fait insignifiant pour montrer que la bonté de M. de la Souchet s'étendait pour moi jusqu'à la minutie, l'embargo qui pesait à la cambuse sur mon vin fut levé, et je rentrai en possession de ma ration journalière. Quant au lieutenant Shield, il perdit depuis lors vis-à-vis de moi ces airs doucereux qui m'épouvantaient tant, et ne me regarda plus que d'un œil féroce. Aussi n'eus-je plus à me plaindre de lui. Les enseignes, messieurs du Houlbec et Olivier, jeunes gens pleins de cœur et de bonté, venaient également voir de temps en temps mes dessins et choisissaient ceux qui leur plaisaient le plus. Ils me soutenaient tous les deux de leurs encouragements et m'aidaient de leurs conseils. En un mot, je me trouvais très heureux à bord de la Brûle-Gueule, et n'eût été la monotonie de notre croisière, qui jusqu'alors semblait ne devoir aboutir à aucun résultat, rien n'eût manqué à mon bonheur. L'équipage aussi, qui avait fondé sur la prise du convoi anglais de joyeuses espérances, se montrait presque découragé lorsque nous atteignîmes les parages de la Chine. Étant en vue des îles Ladrones, nous fûmes accostés par un bateau du pays qui vint pour nous vendre des fruits et nous apprîmes par ceux qui le montaient que le convoi anglais se trouvait en ce moment mouillé à 30 000 tout au plus de nous. Cette nouvelle réveilla l'enthousiasme engourdi de nos équipages ou, pour être plus exact, lui donna des proportions inouïes qu'il n'avait jamais atteintes encore. Les hommes sevrés depuis longtemps d'argent et de plaisir se sentaient un appétit féroce de jouissance et se promettaient de se dédommager avec usure de leurs privations passées. Nous étions tellement assurés du succès, notre imagination était montée à une telle hauteur que pas un parmi nous n'eût consenti à vendre sa part future de prise pour une forte somme d'argent comptant. Que l'on juge de notre joie frénétique quand le lendemain, vers 2 heures, nous aperçûmes deux vaisseaux anglais ancrés à 6 000 à peu près de nous
auprès d'une petite île. Un cri immense et spontané s'éleva sur la brûle-gueule. Les Anglais, surpris à l'improviste et comprenant l'impossibilité de soutenir une lutte avec des forces aussi supérieures que les nôtres, coupent leurs câbles, appareillent à la hâte, en jetant par-dessus bord tout ce qui les encombre, et se dirigent vers la rivière de Canton. La chasse commença aussitôt. J'avais souvent, pendant le cours de cette traversée, été à même d'admirer la beauté de la construction et la supériorité de marche presque fabuleuse des bâtiments espagnols, qui nous rendaient facilement un bon tiers de leur voile et conservaient encore l'avance sur nous. Je maudissais cette supériorité, qui allait leur permettre d'aborder les premiers les Anglais, lorsqu'à mon grand étonnement, je les vis se ralentir peu à peu et se laisser gagner par nos deux navires à vue d'œil. Du reste, la chasse allait bien. Nous n'étions guère, vers 4 heures, éloignés des Anglais que d'une lieue au plus. Bientôt, la preneuse et la brûle-gueule, que leur mauvaise marche plaçait en arrière de la division, dépassent considérablement les vaisseaux espagnols et se trouvent à portée du canon de l'ennemi. Le feu s'engage aussitôt. Nous échangeons plusieurs bordées. « Monsieur Frélot, dit le capitaine en s'adressant à son second, « apportez toute votre attention à ce que les artilleurs pointent aux matures. Nous sommes à une trop grande portée de l'ennemi pour espérer le combattre sérieusement, et tous nos efforts ne doivent tendre qu'à un but, celui de lui causer quelque avarie qui retarde sa marche et donne le temps aux Espagnols de nous rejoindre. Au reste, je ne comprends plus rien à la conduite de nos alliés. Hier, voilier admirable, aujourd'hui vraie tortue et semblable à des galiotes hollandaises. Que l'on pointe au mât, monsieur Frélot, retenez bien cet ordre. » Le feu durait avec vivacité de notre part, mais sans produire aucun résultat apparent, lorsqu'un événement, auquel nous étions loin de nous attendre, vint, sinon nous jeter dans le découragement, au moins affaiblir beaucoup nos espérances. Les vaisseaux espagnols nous apprennent par leurs signaux qu'ils ont éprouvé des avaries. Cet événement, aussi imprévu qu'inexplicable, car rien ne pouvait motiver ou donner à deviner comment, tout à coup, et par une belle mer, les magnifiques bâtiments de nos alliés se trouvaient subitement réduits à l'impuissance, fut accueilli de M. Bruneau de la Souchet par un froncement de sourcils et un haussement d'épaule très significatif qu'il ne daigna pas même dissimuler. Il se contenta seulement d'ordonner que l'on activât le feu. Peu après, le vaisseau amiral espagnol nous adressait, par signaux sur signaux, l'ordre de cesser le combat et de nous rallier à sa division. « Que le diable m'emporte !» s'écria notre brave capitaine en accompagnant ses paroles d'un énergique juron, tout à fait en désaccord avec ses habitudes et ses manières. « Que le diable m'emporte si j'obéis. Monsieur Frélot, faites forcer de voile et tâchons de rejoindre l'ennemi. Nous verrons bien si les Espagnols oseront fuir honteusement, en nous laissant au pouvoir de l'Anglais. Après tout, pourquoi pas? Qu'importe? Nous succomberons du moins avec gloire et nous sauverons l'honneur de la France et celui de notre pavillon. » Pauvre l'ermite, ajouta peu après le capitaine d'un air mélancolique, comme il doit souffrir de notre humiliation. Cependant, le moment de la colère passé, et il fut long, car il dura jusqu'à la tombée de la nuit, M. Bruneau de la Souchet finit par se conformer à l'ordre de l'amiral et abandonna, en même temps que le capitaine l'ermite, ses malheureux parages. La triste issue de cette croisière, si misérablement entravée par la tiédeur espagnole, jeta un profond découragement dans nos équipages, et ce fut sans joie et sans entrain que nous fûmes relâchés de nouveau à Cavite-le-Vieux.